que ben savent la vivre.
Et je rappelle que la conférence des évêques catholiques de Cuba qui confirmait avoir reçu cette aide humanitaire de 3 millions de dollars donc de la part des États-Unis, on en parlait un petit peu plus tôt. Parmi les autres défis, les nombreux défis, il y a celui de l'éducation. Comment est-ce que vous accompagnez les jeunes ?
Alors l'éducation, en effet, comme beaucoup des obligations de l'État, est en nette régression. Beaucoup de professeurs ont émigré à cause de des salaires très bas. Et donc on se retrouve avec un niveau d'éducation difficile de maintenir. Et alors nous avons plusieurs projets éducatifs. Donc le plus petit, c'est pour les garderies. Donc là, on essaie de faire croître ces enfants avec des. On suit à peu près les programmes éducatifs du développement de l'enfant. Nous avons des cours du soir. Donc là, pour compenser et aider les jeunes à pouvoir travailler et avoir un bon niveau. Ce qui repose sur leur volonté, parce que sinon, ils ont plein d'autres choses à faire, donc c'est un bel effort de leur part. Et puis, nous avons un internat sans l'école, bien sûr, puisque l'école est d'État, hein, mais un internat avec une quinzaine de garçons, c'est l'éducatif plus intensif, en lien avec les familles, et puis toute une équipe. À chaque fois, ce sont des équipes de laïcs, hein, c'est pas les prêtres qui donnent des cours ou qui sommes avec directement les enfants, c'est tout un réseau éducatif avec des professionnels et des éducateurs que nous essayons de former. Donc effectivement, c'est une part très importante de notre mission à Cuba.
Et alors dans ce rôle auprès des jeunes, et on parlait de ce pourcentage très élevé de Cubains qui souhaitent quitter l'île, comment est-ce que vous, au quotidien, quels sont vos mots pour ces jeunes qui, on imagine, certains peuvent être démotivés, voire désespérés face à la situation ?
Effectivement, par exemple par rapport aux carrières, aux études, les jeunes ont devant eux un choix, soit je vais m'embêter à l'université avec un système d'internat sur place très défaillant, il n'y a pas d'eau, c'est terrible la nourriture, etc. Et plus c'est coupé de courant. Soit je vais aller faire des biscuits dans une entreprise privée et je vais gagner tout de suite beaucoup d'argent, beaucoup plus,
en
suffisamment
cas, pour
vivre.
De l'argent.
Exactement, parce que c'est dans le domaine privé, les micro-entreprises privées sont celles qui actuellement fonctionnent bien. Donc, déjà, notre langage, c'est de dire, prends le temps d'investir pour ton avenir. C'est ce qui est difficile à penser, parce que leur avenir, pour eux, c'est en dehors de Cuba. Et ensuite, c'est le présent. En fait, c'est-à-dire qu'on va vivre des choses dans le présent, pour les faire grandir, pour vivre la communauté. Les Cubains sont très joyeux, hein, malgré tout l'abattement un peu qu'ils vivent actuellement dans leur situation. C'est un peuple très joyeux, très heureux. Et donc, on vive cette communauté, cette joie de la communauté. Et dans le service. Évidemment, le service ne manque pas. Donc, on a emmené, par exemple, distribuer les colis après l'ouragan, ou bien tout simplement visiter des personnes malades, faire animation pour le groupe de personnes handicapées qu'on a. Voilà, les mettre au service. Et ça, c'est une joie. Et c'est le présent, en fait. On peut pas, si on se projette trop sur le futur, vient tout de suite la question de l'émigration. Donc, on essaie de vivre l'instant présent.
Ces jeunes qui constituent également, on l'entend un peu, un ferment d'engagement pour l'Église à Cuba. L'année dernière, le jubilé des enfants de cœur a été célébré au séminaire de San Carlos et San Ambrosio à La Havane. C'est un moment festif, convivial et spirituel pour mettre à l'honneur justement les servants d'hôtel. Je vous propose de regarder cet extrait vidéo réalisé par le diocèse de La Havane. On y voit l'engagement, les motivations de ces jeunes à servir Dieu et l'Église.
Ma plus grande envie en devenant enfant de cœur était d'être le plus près possible de l'autel, où Jésus est présent dans l'Eucharistie à chaque célébration. Cela fait plus de 10 ans que je suis enfant de cœur et je ressens vraiment la même émotion et le même amour à chaque procession d'entrée, à chaque messe.
Je suis devenu enfant de cœur en raison de ma foi et aujourd'hui je suis acolyte. C'est ma façon d'aider l'Église.
Je veux aider davantage l'Église et me rapprocher un peu plus de Dieu en étant proche de l'autel. Il me manque encore des choses et je dois continuer à apprendre. Je veux mettre à contribution tout ce que j'ai à offrir. Je veux aider davantage, me rapprocher un peu plus des gens de l'Église qui sont tous mes amis, ma famille, mais surtout pour me rapprocher davantage du Seigneur.
Est-ce que le fait d'être chrétien, ça transforme les Cubains ?
Ça devrait, en tout cas. Et oui, oui, oui. Parce qu'ils ont encore une fois un rapport très très naturel. Alors ça vient toucher des choses. Il y a moins de protection que chez nous. Oui, je pense déjà sur le fait de la joie. Et du service, qui sont dans un moment difficile, on peut avoir tendance, les jeunes, à se replier sur mon petit confort ou mes difficultés. Voilà, les mettre en communauté, ensemble, au service. Et ça, c'est un témoignage merveilleux.
Alors, Monseigneur Gallagher, c'est le secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège. Il était à Cuba en juin dernier pour le 90e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vatican et le pays des Caraïbes. N'ayez pas peur d'ouvrir vos cœurs au Christ. Laissez-le entrer dans vos vies, dans vos familles, dans la société, pour que tout soit renouvelé. Il a repris ces paroles de Jean-Paul II prononcées en 98. On disait ce passage de Jean-Paul II qui a vraiment marqué les esprits. Et ce lien dans la diplomatie, l'Église catholique sur le plan diplomatique, qui a régulièrement servi de médiateur, notamment entre Cuba et les États-Unis, par exemple. Comment les déclarations du président américain Donald Trump, elles sont perçues à Cuba?
Alors, c'est sûr
on doit remettre un petit peu de contexte.
Exactement. Là, depuis le 3 janvier, les choses sont différentes parce que Cuba est depuis 20 ans, 25 ans, très lié au Venezuela. Et donc là, ce changement suscite d'abord de la crainte parce que s'il n'y a plus le pétrole du Venezuela, il y aura un manque d'électricité. L'électricité à Cuba étant fournie principalement par des usines avec du pétrole. Oui. Et par contre, ça suscite aussi une espérance, parce que le peuple attend un changement. Le peuple attend un changement. Et donc, il y a cette espérance d'un changement. Avec le risque, c'est que les Cubains sont habitués à tout attendre, donc que ça leur tombe un peu du ciel. Il y a beaucoup de déresponsabilisation. Et Jean-Paul II, justement, l'avait dit quand il est venu, « Cuba, prends en main ton avenir ». Et donc là, il y a un vrai défi, c'est de dire que les Cubains ne pensent pas « Tiens, ça va nous tomber du ciel, mais il faut qu'on le construise, cet avenir ». Et donc, c'est ça aussi notre témoignage, notre espérance, c'est qu'on aide à construire. Qu'on fait parfois une goutte d'eau dans l'océan et on se dit à quoi ça sert, mais en fait je crois vraiment à la dimension prophétique de ce que l'on fait, notamment dans le domaine éducatif. On sème quelque chose et voilà, quand Dieu voudra, ça portera du fruit. Et c'est ce que nous essayons de vivre humblement dans la mission Cuba.
Alors, j'ai quelques petites questions par Régis avant de se quitter. Je vous propose donc de passer à cette partie de l'entretien. Des questions, des réponses plutôt courtes. Quelle figure catholique marquante à Cuba vous inspire particulièrement et pourquoi ?
Le père Félix Varela. Il l'appelle le premier qui nous a appris à penser un prêtre du 19e siècle qui était en faveur de l'indépendance et qui a donc dû s'exiler, il est mort en exil. Et qui a écrit des lettres, notamment pour les jeunes Cubains, pour les préparer au jour de l'indépendance où ils devront prendre en main le futur de leur pays. Et c'est d'une actualité brûlante pour aujourd'hui, pour les jeunes.
Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer à Cuba ?
Le grand sanctuaire de Cuba, c'est le sanctuaire La Vie à la Charité, qui attire tous les Cubains. Tous, quelle que soit leur croyance ou pas. Il est un petit peu loin, donc il est tout à fait à l'est de l'île, mais c'est beaucoup d'heures de transport par des routes très mauvaises. Donc il y a un sanctuaire que j'aime beaucoup, c'est le sanctuaire de la nature, dans la montagne de l'Escambray, qui est un plus proche de chez nous. Et là, c'est vrai que je respire la nature cubaine et d'une beauté extraordinaire.
Et enfin, une intention de prière pour les Cubains en conclusion.
Alors, oui. Un peu, c'est un défi pour l'Église à Cuba, avec toutes les urgences qu'il y a à laquelle il faut pallier. Le risque de l'Église à Cuba, c'est de tomber dans l'activisme. On n'a pas assez de prêtres, il y a besoin de ça, et donc on a un besoin criant d'intériorité. Et donc, mon intention de prière, c'est vraiment de demander de la vie contemplative pour Cuba. Il nous faut, je lance un appel, un monastère d'hommes prêts à défricher, parce qu'il faut être costaud, mais être un signe prophétique et de pouvoir donner de l'intériorité. J'avoue que bien égoïstement, je pense d'abord à nous les prêtres, pouvoir nous ressourcer. C'est quelque chose qui manque beaucoup à Cuba, pour pouvoir donner la source, c'est de même au vivre aux Cubains, et ça s'étend. Mais vraiment, c'est une vraie intention de prière à porter l'intériorité et la vie contemplative des contemplatifs à Cuba.
Merci beaucoup, Père Régis Morel, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Marion.
Merci pour votre témoignage. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Cette semaine, nous prenons la direction du Liban. Et on retrouve le père Michel Aboud.
Bonjour à tous. Dans un temps où nous vivons les guerres et les menaces de toutes parts, particulièrement au Liban et au Moyen-Orient, une question s'impose à nous. Comment croire encore quand la violence semble plus forte que la paix et la mort plus visible que la vie? Chaque jour, les images nous submergent. Des villes détruites, des familles déplacées, des enfants privés d'avenir et un peuple fatigué d'attendre des jours meilleurs. Dans ce contexte, la foi peut vaciller. La prière peut devenir lourde et le silence de Dieu peut sembler assourdissant. Pourtant, c'est précisément là que la foi chrétienne devient prophétique. Elle ne nie pas la réalité. Elle ne ferme pas les yeux sur la souffrance des peuples, mais elle ose affirmer que Dieu est présent. Croire aujourd'hui au Liban et au Moyen-Orient, ce n'est pas être naïf, c'est résister intérieurement au désespoir. C'est croire que la paix commence dans le cœur de celui qui refuse à céder à la haine. C'est croire que Dieu continue d'écrire l'histoire, même lorsque nous n'en voyons pas encore la fin. Et peut-être que notre mission aujourd'hui n'est pas de tout comprendre, mais de tenir debout, de garder la lumière allumée et de rappeler au monde humblement mais fermement que l'amour aura le dernier mot.
Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kto.tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.
Écoutez KTO Radio.